Frédéric Métezeau, bonsoir Frédéric.
Bonsoir à tous, un grand débat et une petite affluence à l'Assemblée nationale. Le grand débat des députés sonne creux pour le moment. Il faut dire qu'il s'agit d'une discussion sans vote, mais à quoi ça sert, se demande l'opposition. Les gros dégâts au Parti Socialiste, l'alliance avec Place Publique a toujours du mal à passer. Sur France Inter, François Hollande critique ouvertement cette stratégie pour les européennes. Emmanuel Macron inflexible avec Londres cet après-midi. Les Britanniques seront responsables d'un Brexit sans accord. Fabienne, le Brexit, vous en parlez dans le téléphone sonne.
Et absolument, oui, le téléphone sonne. Le Brexit surtout, est-ce que vous y comprenez réellement quelque chose? Est-ce que vous savez ce qui se passe? Est-ce que vous savez surtout où nous allons? Visiblement vers un Brexit dur, mais allez savoir. Donc tout ce que vous avez toujours voulu savoir, les questions que vous vous posez, et surtout quelles seront les conséquences pour nous, ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
On va commencer avec donc la dernière ligne droite du grand débat qui fait étape à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui et demain, les députés doivent parler de transition écologique, de fiscalité, de démocratie et de services publics. C'est un débat sans vote, c'est donc une simple discussion. Élodie Forêt, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes au Palais Bourbon, Élodie, les bancs sont déserts.
Oui, pour le premier thème abordé aujourd'hui, la transition écologique, c'est une discussion sans passion dans un hémicycle très très clairsemé devant très peu de ministres. Chaque groupe politique a présenté en 15 minutes sa vision globale, plus que des propositions concrètes. Pour la majorité, c'est le député Jean-Charles Colas-Roy qui est d'abord monté à la tribune.
Pour réussir à modifier nos comportements collectifs, il faut informer nos concitoyens, responsabiliser sans culpabiliser, en mettant mieux en valeur les solutions concrètes existantes et en valorisant les comportements vertueux, inciter au maximum et contraindre en dernier ressort.
La République En Marche, attaquée assez mollement, il faut le dire, par l'opposition. Mathilde Panot de la France Insoumise est l'une des plus incisives.
Pour que la bifurcation écologique soit entamée, il faut partager les richesses et imposer ce partage à ceux qui se gavent. Pour que vainque l'écologie des gens, il faut mettre en pièce la vôtre et celle de votre gouvernement, monsieur le ministre, l'écologie de l'argent.
Souvent virulent, le Rassemblement national, lui, avait déserté ce premier débat où il n'avait de toute façon le droit qu'à très peu de temps, ses élus étant non inscrits, le député Sébastien Chenu.
Ce débat à l'Assemblée nationale est une plaisanterie. Nous avons 9 minutes de temps de parole. Marine Le Pen a 5 minutes royalement de temps de parole. Donc la réalité, c'est que ce gouvernement ne veut pas que les représentants du Rassemblement national puissent faire entendre leurs propositions dans le cadre de ce grand débat. C'est une plaisanterie.
Sébastien Chenu qui, malgré tout, rejoindra l'hémicycle ce soir pour débattre à partir de 21h30 de la fiscalité. Un débat qui pourrait être, on l'espère, un peu plus animé.
Élodie Forêt en direct de l'Assemblée nationale pour France Inter. Le gouvernement avait enrichi ce texte pour répondre aux gilets jaunes qui dénoncent une France à deux vitesses. Le Sénat adopte la loi sur les mobilités. C'est une boîte à outils qui permettrait d'assouplir les 80 km/h, d'ouvrir à la concurrence les lignes de bus de la RATP, de créer des forfaits fait mobilité défiscalisée pour financer son déplacement professionnel ou encore d'aider au développement du vélo et du transport électrique. Le texte doit maintenant passer à l'Assemblée nationale. Jean-Paul Delevoye, le monsieur retraite d'Emmanuel Macron, va-t-il battre en retraite? Selon le Canard Enchaîné qui sort demain, l'ancien ministre chargé de la concertation sur ce dossier menace de démissionner si l'âge de la retraite était reculé. Plutôt partir que faire ça, aurait-il déclaré en fustigeant, je le cite, les cons de Matignon. Fermez les guillemets. Un débat électoral à 12 jeudi soir sur France Inter et France 2. Sur décision judiciaire, Benoît Hamon, Florian Philippot et François Asselineau affronteront les autres têtes de liste pour les élections européennes. Benoît Hamon n'était pas invité en raison de la taille modeste de son mouvement Génération. Il avait saisi le tribunal administratif. Il sera, Benoît Hamon, par ailleurs invité du grand entretien demain à 8h20 sur Inter.
Tiens, et pour qui va voter François Hollande alors?
Question posée ce matin à l'ancien président de la République dans le 7-9 de France Inter.
Je voterai pour les socialistes, je vote toujours pour les socialistes. Faut-il encore qu'il y en ait?
François Hollande avec Nicolas Demorand, il s'inquiète de la campagne du parti qu'il a dirigé pendant 11 ans. En tête de liste, Raphaël Glucksmann et Claire Nouvion, venus de Place Publique. Ce ne sont pas des socialistes pur sucre, c'est à se demander, Yael Gauz, et c'est l'inquiétude de François Hollande, si la liste du PS aux européennes sera bien socialiste.
Oui, on pourrait appeler ça un traumatisme perlé. Il y a eu le déménagement de Solferino à Ivry, c'est fait. L'inventaire du quinquennat dans la douleur, mais il est fait. Et maintenant, les les conséquences du mariage avec Place Publique et Nouvelle Donne, le PS version Olivier Faure ouvre très grand les fenêtres, mais il met aussi l'ancien monde à la porte. Écoutez l'amertume de Christine Revaud-Dallone, eurodéputée sortante, présidente de la délégation socialiste au Parlement européen et qui ne figure plus en position éligible.
On a toujours fait des listes de rassemblement. Là, on ne sait pas de quelle manière va se faire ce rassemblement et surtout on ne sait pas qui seront les socialistes qui sont sûrs de siéger au Parlement européen dans le groupe des socialistes démocrates.
Bonne question, traduction, si le PS permet à Raphaël Glucksmann d'être élu, siégera-t-il au moins avec les socialistes européens? Eh bien, seulement si leur projet est résolument écolo et social, répond la tête de liste. Des polémiques qui laissent de marbre le premier secrétaire Olivier Faure. La réalité, c'est qu'il y a peu de places éligibles, donc ça grogne.
Bien sûr, il y aura toujours des ronchons, parce que c'est toujours comme ça. Il y a toujours des gens qui considèrent qu'il faut faire comme avant. Mais comme avant, on sait ce que ça donne. Comme avant, c'est un échec historique. Et les gens qui donnent aujourd'hui la leçon sont ceux qui devraient justement en tirer quelques-unes.
Et voilà comment remettre à sa place un ancien président très intrusif. François Hollande revendique la cohérence, la constance, la fierté du drapeau PS. Olivier Faure estime qu'il faut renouveler et le logiciel et les alliances, car le PS n'est plus celui de 2012.
Et aujourd'hui, les adhérents du PS sont invités à valider les noms des candidats socialistes aux européennes. 20 hommes et 20 femmes. La militante d'attaque Geneviève Le Guay a quitté les soins intensifs de l'hôpital de Nice ce midi, selon France Bleu Azur. Elle a été blessée il y a 10 jours lors d'une charge policière. Elle va passer quelques jours en convalescence. Tous les plats de l'EHPAD La Chêneraie à Lerme sont préparés sur place. Déclaration du groupe Corian dans un communiqué 48 heures après que 5 personnes âgées sont mortes là-bas. La piste de l'intoxication alimentaire est la plus sérieuse. La justice a ouvert une enquête. La ministre de la Santé présente sur place dit qu'elle veut comprendre. Agnès Buzyn.
Je suis venue d'abord apporter mon soutien aux familles, leur dire que je tenais à ce que toute la transparence soit faite sur les circonstances de ce drame, sur les décès. J'attends les résultats de l'enquête, je n'ai pas de réponse aujourd'hui à apporter, mais qu'il est très important que cette enquête ait lieu et que nous sachions s'il y a eu des défauts de procédure ou une faute et que nous puissions en tirer les conséquences. Mon deuxième message était envers les professionnels de cette EHPAD, les aides-soignantes, l'infirmier, les personnes qui travaillent au quotidien auprès des personnes âgées, qui sont très choquées elles aussi. Ce sont des personnes qui font bien leur travail et qui, évidemment, avaient besoin aussi d'entendre que la ministre les soutient au quotidien et que le fait qu'il y ait une enquête ouverte ne remet pas en cause individuellement l'engagement de chacun de ces professionnels auprès des personnes âgées. L'engagement que j'ai pris vis-à-vis des familles, c'est que la transparence sera complète et que les réponses seront données à leurs inquiétudes et à leurs douleurs.
La ministre de la Santé Agnès Buzyn avec Stéphanie Glaisis.
Il est 19h08 sur France Inter. Peut-on contraindre l'État à rapatrier des proches de djihadistes retenus en Syrie?
Le tribunal administratif de Paris étudiait en référé la demande de deux femmes qui vivent dans un camp au Kurdistan. Ces deux femmes, épouses de djihadistes partis en Syrie, ont chacune 3 enfants. Elles demandent donc à rentrer en France. Leurs avocats souhaitent que l'État organise leur retour. Sophie Parmentier, vous avez assisté à l'audience.
Oui, votre décision sera archi commenté dans les salons ministériels. Comment se mettre William Bourdon face à la juge des référés, seul juge pour cette audience devant le tribunal administratif de Paris? Je mesure la complexité de ce dossier au carrefour des questions sécuritaires et humanitaires, poursuit l'avocat. C'est un dossier hors norme, mais vous, juge, vous devez juste rappeler la norme, le droit à la vie pour les enfants. Ces 6 enfants âgés de 1 an à 8 ans, ces enfants que je défends avec leur mère, des enfants innocents, martèle le ténor du barreau, qui estime que la terreur de l'opinion a conduit à un cynisme d'État. L'État a récemment rapatrié 5 orphelins, pourquoi pas tous les autres enfants français menacés de mort dans les camps du Kurdistan syrien, plaide en chœur William Bourdon et son associé Vincent Brengart. L'État fait de ses enfants des otages, s'énerve-t-il à la barre. Face à eux, l'avocate du ministère des Affaires étrangères rétorque que l'État français doit négocier avec les Kurdes pour les retours et elle martèle qu'il n'y a absolument aucune obligation de rapatriement. Au bout d'une heure de plaidoirie, la juge unique conclut l'audience par ces mots. L'affaire est vraiment délicate, l'enjeu est énorme. Je n'exclus pas de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale, dit-elle. Sa décision risque ainsi de ne pas être rendue en urgence, comme c'est normalement le cas en référé.
Au procès de l'arbitrage du Crédit Lyonnais, la parole est à la défense. Hier, le parquet a requis 5 ans de prison ferme contre Bernard Tapie et 3 ans, dont 18 mois avec sursis contre Stéphane Richard. L'actuel PDG d'Orange était le directeur de cabinet de la ministre de l'économie en 2008, quand l'arbitrage avait été conclu entre Tapie et l'État, avec à la clé 403 millions d'euros de dédommagement pour l'homme d'affaires. Bonsoir Sarah Guibaudot.
Bonsoir.
Vous êtes en direct du tribunal de Paris. Sarah, les avocats de Stéphane Richard ont plaidé cet après-midi et ils ont demandé sa relaxe.
L'accusation repose sur un syllogisme, commence Maître Giammarchi. L'arbitrage était demandé par Bernard Tapie, donc il est frauduleux et tous ceux qui ont accédé à sa demande se sont rendus complices. Pourtant, poursuit Pierre Cornu-Gentil, pour que Stéphane Richard soit complice, il faut qu'il ait su quelque chose. Or, même les juges d'instruction reconnaissent qu'ils ne savaient pas forcément que l'arbitrage était truqué et comment. Quant aux connivences, pour la défense, il n'y a pas eu plus de 3 rendez-vous ou réunions avec Richard et Tapie, et l'implication de l'Élysée dans le dossier n'est que le fonctionnement normal de l'État. Hier, le procureur a reproché à Stéphane Richard de ne pas avoir informé loyalement sa ministre. Ses avocats estiment que Christine Lagarde a cherché à sauver sa tête en sacrifiant celle de son directeur de cabinet pendant l'instruction. Puis, il souligne qu'elle a fini par reconnaître qu'il lui avait transmis les données principales. Aujourd'hui, Bernard Tapie est absent. Stéphane Richard écoute avec attention ses avocats à exploiter les faiblesses du dossier. Le patron d'Orange est sans doute le prévenu qui a le plus à perdre aujourd'hui.
Sarah Guibaudot en direct du tribunal de Paris.
Et Emmanuel Macron met la pression sur les Britanniques.
Oui, vous en parlerez dans le téléphone sonne tout à l'heure. Fabienne, le Brexit, les Britanniques englués dans leur porridge, on pourrait dire dans leur marmelade. Le Parlement britannique est paralysé. Le gouvernement vient de tenir une longue réunion de cabinet à Downing Street. Et à l'instant, Theresa May demande un nouveau report du Brexit. Il était d'abord prévu le 29 mars. On en est maintenant au 12 avril. Ce sera peut-être le 22 mai, voire plus tard. Voire après les élections européennes. Tout est donc sur la table. Pendant ce temps, Emmanuel Macron recevait le Premier ministre de la République d'Irlande à l'Élysée, le président français qui place Londres devant ses responsabilités.
Le rejet par 3 fois de l'accord de retrait par la Chambre des communes, ainsi que le rejet à ce stade de tout plan alternatif, nous mettent sur le chemin d'une sortie sans accord. Et comme l'a décidé le Conseil européen du 22 mars, il revient au Royaume-Uni de présenter un plan alternatif crédible, soutenu par une majorité d'ici au 10 avril, pour l'éviter. Si le Royaume-Uni n'est pas capable, près de 3 ans après le référendum, de proposer une solution qui réunit une majorité, il aura de facto choisi de lui-même de sortir sans accord. Et nous ne pouvons pas éviter l'échec à sa place.
C'était Emmanuel Macron, le président de la République française, qui réagissait donc aux derniers événements concernant le Brexit. Theresa May, à l'instant, demande que le Brexit soit une nouvelle fois reporté. Elle espère, la Première ministre, un accord d'ici le 22 mai. Le pape s'adresse aux jeunes dans une exhortation apostolique de 50 pages. François les avertit des dangers d'un Internet motivé par de gigantesques intérêts économiques. Il dénonce les fausses nouvelles sur les abus sexuels. Il parle de crimes horribles, mais qui sont le fait d'une minorité de prêtres. Le pape François reconnaît aussi qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église une forme d'autoritarisme de la part des hommes, de soumission, de diverses formes d'esclavage, d'abus et de violences machistes. Fermez les guillemets, propos très forts donc. Et pour Monseigneur Jean-Pierre Battu, évêque de Blois, l'Église pourrait évoluer en ouvrant le conclave qui élit le pape à des femmes.
L'évêque de Rome a un rôle unique dans la vie de l'Église catholique. Voilà. C'est pas un évêque parmi d'autres. Et à cause de ce rôle particulier, on pourrait penser différemment son mode d'élection. Et donc on pourrait tout à fait imaginer que ce système soit adapté de façon à avoir une assise plus large, à représenter plus largement l'Église universelle, et que ce soit pas lié à la masculinité de ceux qui votent, mais que des femmes puissent également voter. Je vois pas ce qui pourrait s'y opposer. Après, qu'on les appelle cardinal ou pas cardinal, c'est une question secondaire.
L'évêque de Blois avec Julie Pietri à l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes. Après le camouflet, la riposte en Turquie, le parti AKP de Recep Tayyip Erdogan va contester officiellement le résultat de la municipale à Istanbul, remporté par un parti d'opposition. Istanbul est la ville natale d'Erdogan, dont il a été maire et dont il avait fait le laboratoire de sa politique islamo-conservatrice. Idem à Ankara, la capitale. Là aussi, l'AKP battu dépose un recours. La semaine dernière, le Premier ministre indien pérorait à la télévision. Modi se félicitait que son armée ait pu détruire un satellite avec un missile à l'occasion d'un exercice. Jusqu'ici, seuls l'Amérique, la Russie et la Chine en étaient capables. L'Inde faisait donc son entrée dans la guerre des étoiles. Mais une semaine plus tard, on en découvre le côté obscur. La destruction de ce satellite indien a créé des centaines de débris spatiaux qui risquent d'abîmer d'autres satellites, voire d'endommager la station spatiale internationale. La NASA est en colère, mais l'Inde fait comme si de rien n'était, Sébastien Farcy.
Cette opération indienne a envoyé 60 débris de plus de 10 cm dans l'orbite proche de la Terre, dont 24 sont à une altitude suffisante pour endommager la station spatiale internationale. Les risques de collision ont ainsi augmenté de 44% en 10 jours, selon l'agence américaine. Mais en Inde, le débat est bien plus terre à terre. Nous sommes à 10 jours des élections législatives et le parti nationaliste hindou au pouvoir exploite cette prouesse technologique pour affirmer qu'il a transformé l'Inde en une nation puissante. Le Premier ministre a même fait le rapprochement avec le bombardement de camps de terroristes pakistanais par l'aviation indienne en février et de clamer que l'Inde domine maintenant la terre, les airs et l'espace. Un discours messianique qui est repris par l'organisation hindouiste du RSS, le bras idéologique de ce gouvernement dont le but est de faire de l'Inde une nation pure, puissante et entièrement hindoue. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
L'OTAN fête ses 70 ans, une fête de famille chez le père de famille à Cariatre, à Washington, chez Donald Trump. Le président américain reçoit aujourd'hui le secrétaire général de l'Alliance, puis des ministres représentant les alliés demain et jeudi. Trump critique régulièrement l'OTAN, notamment son coût et le reste à charge pour les États-Unis. Mais la semaine dernière, il a envisagé que le Brésil puisse y adhérer.
Allez, à vos marques, prêts, lisez.
Vous l'avez entendu dans le journal de 13h avec Bruno Duvic et le président Riyad Satouf. Le jury du Livre Inter est constitué 12 hommes, 12 femmes. Ils viennent de partout en France. Ils ont un peu plus de 2 mois pour lire 10 livres. Une sélection à retrouver sur franceinter.fr. Et parmi eux, Samuel Marouta, chocolatier parisien de 44 ans. Écoutez bien, Eva Bétan lui a appris la nouvelle.
Mais c'est super. Je suis vraiment ému. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. J'ai tenté ma chance. C'est peut-être une habitude d'entrepreneur. On lance des bouteilles à la mer. Je suis vraiment très, très heureux. J'ai toujours lu. Donc, quand je rentre le soir chez moi, je lis. Je lis aussi parfois dans la journée. J'avais un recueil de poèmes de Desnos dans mon sac. J'ai pris quelques minutes pour lire dans la matinée.
Expliquez-moi votre métier de chocolatier.
Ça fait 8 ans que je fabrique du chocolat, principalement au Vietnam. L'idée, c'est qu'on fabrique du chocolat de la fève à la tablette, de la matière première jusqu'à un produit fini. Le secret dans mon chocolat, c'est la qualité du cacao.
Alors, vous parliez de votre rapport à Riyad Satouf.
Je suis un fan depuis très longtemps. Les cahiers d'Esther, c'est très amusant parce que j'ai une fille qui a le même âge exactement qu'Esther. Donc, ça me permet aussi de décrypter ce qui se passe dans la cour de récré à travers la version non filtrée qu'en donne Riyad Satouf.
Samuel Marouta, heureux juré du Livre Inter avec Eva Bétan, avec ses collègues. Ils se retrouveront pour siéger le 9 juin à la Maison de la Radio. Leur verdict sera proclamé le lendemain matin sur France Inter. C'était aussi un événement inter, le festival Sérimania à Lille, avec un peu plus de 72 000 personnes qui ont assisté aux animations et aux projections, plus 30% par rapport l'année dernière. Notez sur vos agendas la prochaine séance, la prochaine édition de Sérimania. Ce sera toujours à Lille du 20 au 28 mars 2020. Fabienne.
Eh ben, merci beaucoup Frédéric Mettezo pour le journal.